Brisons les castes.
Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous revenons ensemble chaque mois sur des sujets de société, d'histoire et de tech, mais également à tout ce qui peut faire l'actualité à Oslo et en Norvège. Nous sommes le mercredi 15 novembre et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. Nous serons ensemble pour un peu plus d'une heure. Et autour de la table aujourd'hui, nous avons Valentin. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Toi, tu vas continuer ton épopée sur les explorateurs aujourd'hui.
Tout à fait, ouais. On a eu Nansen et là, on passe à son successeur, Amundsen.
Oui, et puis une première pour toi Roxane, tu es derrière les manettes aujourd'hui. Tu vas nous parler d'un fait divers assez intéressant.
Ouais, je vais parler d'une des plus grosses erreurs judiciaires de la Norvège, norvégienne. Donc c'est un peu glauque, je préviens, mais c'est très intéressant et voilà.
Et nous avons de retour dans nos studios, Cécile, tu vas nous parler de tes rencontres ?
Ouais, parce que je suis allée à la rencontre des Français de Norvège et j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter.
Et quant à moi, je vous ai réservé une chronique en deuxième partie d'émission pour revenir sur la santé des hommes avec le mois de Movember. Pour ouvrir les sujets d'actualité, ça parle beaucoup de politique ces dernières semaines avec notamment la suite de l'affaire de Bjørnar Moxnes. Encore pris en flagrant délit de vol.
Encore ? Ah, j'avais pas compris ça.
Parce qu'il avait commencé avec une paire de lunettes de soleil, il me semble. Ouais. Mais là, l'affaire grossit. Il semblerait qu'il ait volé plusieurs fois. Donc, on rappelle Bjørnar Moxnes, qui est le représentant de Rødt, qui en aurait volé pour à peu près 15 000 couronnes ici et là.
Juste, du coup, le Rødt, c'est un peu l'équivalent de la France insoumise en France, quoi.
Donc, enfin, ça fout un peu mal.
Parti communiste, oui.
Ouais, ok, d'accord.
C'est plutôt communiste, ouais.
Ouais,
c'est plutôt les rouges, ouais.
Mais
c'est le PC, ouais.
Il a volé quelque chose, là ?
Ah bah, il s'est fait prendre plusieurs fois. Et donc là, apparemment, il joue la carte de la santé mentale. Donc c'est un peu compliqué pour le parti et pour lui-même, d'ailleurs, parce que comment tu reviens de... Bah, je suis kleptomane, je peux pas m'empêcher de voler. Dur, dur. Cécile, t'as lu un petit peu ?
Ouais, moi, je suis un petit peu genre... je trouve quand même que... J'ai du mal à avoir beaucoup d'empathie pour les puissants qui tout d'un coup pleurent sur leur propre sort parce qu'ils piquent du saumon et du fromage dans les supermarchés.
Ouais.
Je reconnais que le gars, il est au Parlement, il a les sous pour se nourrir, il vient d'un quartier plutôt aisé. Il a une histoire super où il s'est engagé dans des causes grandes et belles alors que clairement, à titre individuel, il n'avait pas forcément besoin. Ouais. Donc, il a fait des super trucs en politique, c'est aussi ça qui me déçoit un peu. Mais ça, honnêtement, le coup de pauvre de moi, je suis kleptomane, j'ai besoin d'un psychologue, ça m'a un peu agacée.
Ouais.
Quand on se prend tous l'inflation dans la tête.
Ouais.
Bah, c'est ça, parce qu'il aurait pu dire, bon, j'ai fait une connerie.
Oui, ça peut être vrai, mais c'est pas forcément une. Ouais, ça attire un peu. C'est un tir à l'arme un peu.
Ça rappelle un peu la phobie administrative. C'est un ministre comme ça, c'est Thomas Thévenoud, avec François Hollande. Il payait pas ses impôts, et du coup, il a prétexté la phobie administrative. Donc, c'est pas nouveau hein, comme technique.
Son nom m'échappe. Mais oui, c'est sûr qu'après, moi, on peut être 5 millions de kleptomanes hein, dans ce cas-là. Si,
bah oui, c'est vrai.
En Norvège.
Paye-moi un psychologue, en fait, et je vais arrêter de voler.
J'ai vraiment besoin d'aide.
C'est ça.
Pauvre de moi.
Mais s'il peut aller voir un psy, moi, c'est tant mieux pour lui. Hein. Mais je trouve ça bien. Et puis peut-être ça peut aussi sensibiliser sur la santé mentale d'une certaine manière.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas.
Si tu vois les choses du côté positif, t'as raison.
C'est ça. Après, oui. sans que ce soit forcément lui, grâce à lui, mais juste dans l'idée. S'il prône l'idée que ça vient d'une kleptomanie, qu'il faut qu'il aille se faire soigner, bah, c'est peut-être pas le seul et voilà quoi.
Oui, après ça ressent surtout un coup de com' quoi.
Oui,
comment je vais ramer pour me retrouver dans
c'est
une
clair.
Situation.
Mais si tu vas dans la surface sans vraiment venir accabler les politiques là-dessus, ou les personnes en général là-dessus qui utiliseraient la même technique, c'est pas non plus débile de dire ça.
Non,
ça
c'est
peut
sûr.
Apporter des.
C'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'il s'était fait choper avec ses lunettes de soleil, avec les lunettes de soleil en août.
Juillet,
ouais. Et là, du coup, ce que je comprends, c'est que les faits ont eu lieu en octobre et novembre, quoi.
Donc très récemment.
Donc il n'a pas pris de ses erreurs surtout. Quoi. Enfin, il y a déjà eu un truc gros immédiat.
Exactement.
Je pensais, après... je pensais que c'était une affaire qui revenait, c'est des plaintes qui avaient été portées par des magasins avant juillet. Et puis non, en fait, ça y est.
Des nouveaux cas.
Ça n'a pas l'air d'aller bien en tout cas. Ouais.
Donc affaire à suivre pour Ruth et du côté de Heura, ça ne va pas beaucoup mieux. Enfin, il y a eu cette histoire. Oui, dis-nous.
Alors ça dépend de quelle perspective. Mais en fait, du coup, Erna Solberg, du coup, qui avait été premier ministre en Norvège de 2013 à 2021, qui a eu un mari qui a réussi à se faire un petit profit de 1,7 million de NOK, en plaçant en bourse pendant ce temps-là, donc ce qui est conflit d'intérêt.
Oui, parce qu'il avait des infos sur quelle entreprise va un peu faire des profits.
Donc son mari qui a réussi à faire un beau profit d'1,7 million, elle a réussi à prétexter, enfin elle est parvenue à prétexter qu'elle n'était pas au courant des opérations que faisait son mari. C'était un peu la ligne de défense, si je comprends bien, aussi de son parti. On rappelle que du coup, cette affaire, elle est survenue après les élections régionales, municipales en Norvège. Et Heureux a fait un bon score. Bon, finalement, en fait, il se trouve qu'ils se rendent compte que les électeurs sont pas trop. En veulent pas vraiment beaucoup en fait à la droite. Il y a eu une petite chute de confiance, mais en fait ça a pas trop affecté la popularité de la droite. Surtout en face, qu'il y a le parti qui est au pouvoir en ce moment, c'est le travailliste, Labour. Et ils ont, je crois, le gouvernement le plus en populaire de Norvège. Donc en fait, ils s'en sortent pas trop mal et la droite quand même s'accorde à dire que finalement Erna Solberg comme candidate pour les élections Premier ministre en 2025 serait pas si mal. Donc finalement, elle se retrouve pas trop abîmée de cette affaire.
C'est un peu de poids de mesure. Si au final, on compare ces deux histoires entre 1,7 million de profits et 15 000 couronnes volées.
À Kiwi.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Mais Solberg, alors, elle est en cause, elle, mais c'est principalement son mari qui est en cause. Enfin, en fait, il y a cette ambiguïté. Est-ce que c'est de la faute du mari ou est-ce que c'est de la faute de sa femme ou est-ce que c'est la faute des deux? Et en jouant sur cette ambiguïté, apparemment, elle arrive un peu à s'en sortir.
Bon, ça paraît évident que le lien existe.
Elle a pleuré quand même.
Oh, bah, c'est la pleurée alors.
Il y a d'autres gens qui ont pleuré pour faire une transition. Les Samis, il y a 7 représentants des Samis qui sont venus pleurer au roi la semaine dernière. Et ça commence à faire un peu beaucoup là pour les éoliennes qui ont été mises illégalement. Il n'y a toujours pas d'avancée. Donc, qu'est-ce que le roi peut faire?
Ouais, ils ont demandé quoi au roi, tu sais?
Qu'ils essaient de faire quelque chose, mais bon, a priori. Ils se sont sentis écoutés. Bon, voilà, mais le roi n'a pas tellement de pouvoir sur les décisions.
Ça joue sur le symbole, au moins.
Oui.
En face, tu as une entreprise privée qui a les éoliennes qui sont sur place, qui sont sur les terres interdites, qui n'auraient pas dû être construites sur les terres des Samis. Je pense que ça joue pour le roi n'est pas trop impopulaire en Norvège, donc ça doit peut-être jouer au niveau de l'opinion pour avoir un peu la faveur du public, j'imagine.
Oui, parce qu'apparemment ils disent non, on voulait juste être écoutés, même si le roi n'a aucun pouvoir politique, le fait qu'il ait tendu l'oreille et qu'il était là pour peut-être les aider à pleurer ensemble sur le sort des amis. Hein. Ouais.
Mais le roi, il a quand même un droit de regard sur ce que fait le gouvernement et en théorie, il a même un droit de veto. Après, je pense qu'en pratique, il ne l'a jamais utilisé. Mais ils sont tous les vendredis au Palais Royal, le gouvernement, pour faire part des décisions. Donc il n'est pas si déconnecté que ça.
Pour faire un bon petit déjeuner tous ensemble.
Non, je crois qu'en vrai, il est vraiment intéressé, mais je ne sais pas s'ils sont si... je ne sais pas.
Après, ça reste la famille royale, il y a un petit engagement au niveau environnemental, non ? Il me semble.
Ouais, mais ils sont relativement neutres politiquement, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais en théorie, ils ont le droit de dire non à la formation d'un gouvernement et une décision de gouvernement aussi. Mais clairement, je ne sais pas à quel point les Samis...
Parce que de toute façon, ça a été décidé en octobre par la Cour suprême que c'était illégal de construire ces éoliennes en terre Samis. Le feuilleton continue pour cette histoire.
Figurez-vous, je peux faire une parenthèse. Vas-y. Improbable, moi, ça fait 13 ans que je suis là et en fait, c'est la première fois... Enfin, j'ai parlé pour la première fois un peu plus longuement que bonjour, au revoir à des gens Samis. En fait, j'étais à un spectacle à Tromsø et il y avait des gens à côté de moi qui parlaient une autre langue. D'ailleurs, honte à moi parce que ignorante. Enfin, on est assez ignorant de la culture sami à Oslo. En vrai, c'est d'ailleurs dommage. Enfin, moi, je vois mes enfants barnaguer. Ils ont un jour pour la culture sami où ils font les blue pannekaker. Ils apprennent le drapeau et une chanson en sami. Et fini.
C'est quoi le blue pannekaker?
Tu sais, c'est les espèces de crêpes au sang de renne qui sont à la tradition. Mes enfants trouvent ça super. Moi, au début, je me suis dit, j'ai pas compris ce que j'ai lu. Je pense Blue Pancake, mais c'est bien ça, c'est Blood Pancakes, quoi.
Ouais.
Et en fait, ils étaient super intéressants, les gens, et ils étaient trop marrants parce qu'ils me disaient, nous, on descend à Tromsø, à la capitale. Donc, déjà, c'est vrai que cette phrase, ouais, dans une phrase de tête de français, elle fait un peu vriller, mais c'était là, oui, on habite à 6 heures. Ils me montraient sur la carte, là, d'où ils venaient, Karasjok, ouais, et tout ça. Et je google, du coup, le nom de la ville, Kautokeino, je crois que ça s'appelle. Et il n'y avait que des rennes. Et la nana, elle me dit, ah oui, oh, des rennes, ça me donne faim. Mais ils sont à fond, quoi. Et elle me disait que c'était presque difficile de décrire l'univers dans lequel elle avait grandi, où on croit encore aux esprits de la forêt, de la nature, ouais, on vit avec les animaux, mais en même temps, on n'a pas peur de les tuer s'il faut. Par contre, on consomme tout, tout sur l'animal, genre everything.
Ouais, ouais, ouais. Pas de gaspillage.
Ouais, et qu'elle avait appris le norvégien, puisque les livres et les manuels scolaires sont en norvégien, l'école en norvégien, etc. Mais dans sa famille, c'est pas la langue qu'on parle. Enfin, c'était hyper, ouais, intéressant. Je me suis dit, il était temps, après ton année en Norvège, de rencontrer ce morceau-là de culture, ouais, norvégienne.
Mmh. Avoir une autre perspective, ouais, de la, ouais, vie en Norvège. Ouais,
j'ai mes potes qui étaient ici en Erasmus à Oslo l'année dernière, qui ont fait un reportage sur les Samis. Pas très gay, hein, je vais y aller direct. C'est qu'il y a eu un gros. Il y a des gros cas d'agression sexuelle au sein de la population.
Ok.
Donc, entre eux. Ouais, entre eux.
Ouais.
Donc, ils avaient suivi une meuf Sami qui avait accepté de parler et qui racontait qu'elle avait été agressée, violée par son voisin plusieurs fois quand elle était jeune et que c'était pas du tout un cas à part. Et que ça avait été médiatisé, mais pas tant que ça. Ça avait été aussi un peu étouffé par le gouvernement. Et ça date d'il y a 20 ans, je pense, un truc comme ça, 20-30 ans, je ne sais plus exactement. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là de la population qui a été médiatisé, mais qui a été étouffé juste après. Et dont je ne suis pas certaine que beaucoup de Norvégiens soient au courant.
Mm. Ok.
Voilà.
Je pense quand même qu'ils sont dans une situation qui est compliquée, avec la volonté de faire respecter leur culture, c'est le clair. Fait qu'ils soient vraiment très très peu...
Non, ça c'est clair. Mais ouais, il y a cet aspect-là aussi. Enfin, il y a eu ces difficultés-là aussi au sein de la population.
Il y a aussi le côté survie de la culture, comment garder ses traditions et pas se faire étouffer
ou avaler son cru. Force. Ouais, exactement.
Bien, bah ça nous fait une transition presque parfaite avec un fait divers dont tu voulais nous parler, Roxane.
C'est super, je préviens encore une fois, ça va être glauque aujourd'hui, je ne suis pas très gaie. J'ai décidé de vous parler d'une des plus grandes erreurs judiciaires de la Norvège. Je suis tombée dessus par hasard hier en cherchant une idée de sujet, j'ai tapé « fait divers Norvège » dans ma barre de recherche. Et je suis tombée sur un article du Parisien qui parlait d'un mec qui avait été accusé à tort. Il datait de l'année dernière, l'article. Donc je vais vous raconter l'histoire tragique, oui et non. Je l'utilise des pincettes quand j'utilise le terme tragique, de Viggo Kristiansen. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du cas... Ouais, Cécile, tu sais de quoi je vais parler.
Ouais, vas-y, raconte, parce que c'est important. Ça fait partie de la culture populaire norvégienne maintenant.
Mais je pense que c'est un peu le cas du petit Grégory de français, tu vois. C'est un peu l'équivalent. Okay. La Norvège a été vachement touchée par ce fait atroce. Donc, on est en l'an 2000, à Baneia, qui est une zone populaire près de Kristiansand. Et c'est un endroit où il y a une petite forêt, un petit lac, etc. Il y a deux petites filles, Lena, 10 ans, et Stine, 8 ans, qui sont en vacances avec leur père. Elles profitent de la journée, elles décident d'aller se baigner au petit lac. Et donc, petit problème, c'est qu'en fait, elles sont parties se baigner vers 18h, mais à 23h, elles ne sont toujours pas de retour. Donc les pères s'inquiètent, et là, on part à la recherche des petites filles. La zone entière se met alors à les chercher. Il y a beaucoup de volontaires, plus d'une centaine. Il y a la police, la Croix-Rouge, il y a même les militaires. Et après presque 3 jours de recherche, la police déclare avoir retrouvé les deux corps. Ok, c'est hard, je préviens. Cachés sous des branches de pin dans une petite fissure rocheuse, elles ont été agressées sexuellement, ligotées, étranglées et poignardées à mort. Voilà. Donc c'est un truc atroce, ça a vraiment choqué les Norvégiens à ce moment-là, parce que c'est une atrocité, quoi. C'est une violence extrême. Et donc, deux jeunes hommes sont condamnés, Jan Helge Andersen, qui avait alors 19 ans, et notre Viggo Kristiansen, qui avait 21 ans au moment des faits. Et c'est là que ça se complique, parce que pour Andersen, il y a des preuves, on a retrouvé des traces de son ADN sur les petites filles, mais pour l'autre, Kristiansen, il y a zéro preuve. Et quand il est arrêté, il nie tout, et l'interrogateur en chef, Monsieur Hansen, je ne sais pas son prénom, a suggéré que le jeune Jan pourrait être une victime dans l'histoire et que c'est Viggo le vrai meurtrier. Peu de temps après, Jan avoue le meurtre de la petite Stine et dit aussi que Kristiansen a tué la petite Lena. Il explique que les deux potes avaient planifié un meurtre et un viol en détail depuis quelque temps déjà, et que le jour du drame, ils se baladaient pépouze à vélo en cherchant des victimes au pif et qui sont tombés sur ces deux petites filles. Donc je vous épargne certains détails morbides de vraiment comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, puisque j'ai pu le lire sur le truc, mais j'avais pas forcément envie d'en parler. Mais en gros, Jan se fait passer pour une victime de la situation. Il dit que Viggo aurait menacé de le tuer s'il ne faisait pas ce qu'il lui demandait, et que c'était lui qui était dominant dans toute cette histoire, que c'était lui qui avait pratiquement tout orchestré. De l'autre côté, Viggo, lui, nie tous les faits. Il proclame le fait qu'il n'a absolument rien à voir avec cette histoire de meurtre.
Est-ce qu'ils étaient amis avant, pour de vrai ?
Ils se connaissaient, ils se connaissaient. Les deux jeunes hommes ont été soumis à des tests psychiatriques et sont tous les deux considérés à ce moment-là comme des hommes sains d'esprit et capables de participer à un procès de manière, comme chaque être humain, comme quelqu'un de normal. Et donc le 21 avril 2001, c'est le jour du procès. Les deux hommes sont accusés de viol et de meurtre prémédité. En plus de ceci, Christiansen a été accusé de viol et d'abus sexuels. Alors je préviens parce que il a été innocenté dans l'histoire, mais en soi c'est quand même pas quelqu'un de top. Enfin, il n'est pas innocent non plus parce que il avait été accusé de viol et d'abus sexuels envers une fille âgée de moins de 10 ans, de l'agression d'un petit garçon lui aussi âgé de moins de 10 ans. Il confesse en effet avoir abusé de la fillette 5 fois entre ses 15 et 17 ans, mais nie le petit garçon. Donc je veux dire, en dehors de cette histoire de meurtre, il a quand même été accusé de viol envers une petite fille, histoire de quand même de remettre les pendules à l'heure. Et quant aux accusations envers les deux filles, envers Lena et Stine, il plaide non coupable. Et pendant le procès, le procureur va le décrire comme un psychopathe violent qui a une obsession avec le porno et le viol, mais les psychiatres le décrivent comme un homme chaotique avec une sexualité immature. Donc il y a vraiment, c'est quand même ces deux côtés-là où la justice est complètement, le blâme est complètement à l'encontre, et les psychiatriques qui disent quand même, il est quand même sain, c'est pas un psychopathe. Et il y a aussi sa mère qui, pendant le procès, le décrivait comme un petit garçon, tout à fait normal, quoi. Et donc, Jan, de son côté, continue de changer la version de l'histoire et continue de remettre toute la faute sur son pote. Le verdict final est que Viggo est condamné à 21 ans de prison, qui était la peine la plus longue pour la Norvège à l'époque. Et Jan, lui, est condamné à 19 ans du fait qu'il ait collaboré un peu avec les interrogateurs et avec la police au moment des faits. Au printemps 2010, des tests ADN qui avaient été en quelque sorte cachés ont été retrouvés. 199 échantillons qui, après avoir été testés, ne prouvent pas que les victimes avaient été tuées par deux personnes. Et pendant ce temps, en fait, donc de 2002 jusqu'à 2021, Viggo, lui, il essaye vraiment de dire blanchissez-moi, quoi, je suis innocent. Et au bout de la sixième tentative en 2021, Viggo a enfin réussi à se faire entendre et sa demande de réouverture de dossier. Son avocat a ensuite demandé sa libération après avoir pris connaissance de la décision de la commission de révision des affaires pénales. Christiansen avait alors jusqu'alors refusé de demander une libération. Parce qu'il voulait être complètement blanchi, quoi. Il était en mode je n'ai rien fait, donc blanchissez-moi totalement.
Oui, il ne voulait pas avouer à moitié.
Oui, c'est ça. Ouais. Il voulait pas, c'était soit tout, soit rien, quoi. Soit vous me laissez en prison, soit vous me libérez totalement. Et sa demande a été refusée. Les avocats ont donc de nouveau fait appel de la décision devant la Cour suprême. Un mois plus tard, le procureur général responsable du dossier a décidé de lever ses objections à la libération de Christiansen. Et donc le lendemain, la Cour suprême décide à l'unanimité de le libérer. Donc le 21 octobre 2022, le Riksadvokat Jørn Sigurd Morud, donc c'est le représentant du plus haut niveau de l'autorité de poursuite en Norvège, a présenté ses excuses. Je suis désolée pour l'injustice qui a été commise. La ministre de la Justice a ordonné une enquête complète sur toutes les institutions qui ont traité l'affaire. Donc en fait, le problème dans l'affaire, si on résume, c'est qu'au moment où Andersen a été interrogé, il y a l'interrogateur qui lui a dit directement « Oui, on sait qu'il y a deux personnes, il y a deux agresseurs, donc si tu nous racontes toute l'histoire, tu t'en sortiras un peu mieux. » Et le mec lui demandait si c'était pas une victime de Viggo, quelle était leur relation, etc. Donc c'est un peu l'interrogateur qui lui a mis en tête que Viggo était impliqué, que c'était lui qui était dominant, et que si il avouait ça, il aurait moins de peine.
Qu'il a encouragé à mentir.
Je pense pas qu'il a. C'était pas intentionnel, mais Jan, l'autre, lui, est complètement taré, du coup. Donc, il a trouvé une porte de sortie en mode peut-être je vais en avoir un peu moins. Donc, je vais prendre mon pote et il va plonger avec moi. Et en fait, c'est que j'ai lu aussi qu'il aurait jamais dû mentionner le nom de son pote de manière générale pendant l'interrogation, avant qu'il avoue les faits, etc. Donc, voilà. Je m'arrête là, parce qu'il y a encore plein de détails. Mais...
Donc, le vrai coupable était ce Jan.
Exactement. Ouais. Mais je suis tombée dessus. Et je m'attendais pas à voir tout ça, quoi, parce que c'est digne d'une série Netflix totalement fictive, alors que non, c'est la réalité. Donc voilà.
T'avais entendu parler de cette affaire ?
Ouais, parce qu'il y a eu des références à ça, par exemple, dans des trucs de stand-up, et moi j'étais là, tout le monde a compris une blague que j'ai pas comprise. Ouais. Donc j'avais un peu catch-upé là-dessus, et le truc aussi de Véronica Ounsru, là, Ounsru, C'est le deuxième fait divers pour un autre
pour
épisode
une autre fois. Okay.
Qui est un peu le comme nos faits divers dont tu parlais tout à l'heure, donc que toute la France connaît. Chez nous, il y a Xavier Dupont de Ligonnès en France, donc tout le monde parle toujours d'ailleurs parce que c'est toujours pas résolu.
Il est toujours en carrière.
C'est un peu pareil, il y a une sorte de point d'interrogation sur qui finalement avait fait le coup et où est-ce que.
C'est la femme qui s'est fait enlever d'un milliardaire,
ça. Il y a ça aussi. Ah, a ça, c'est une autre.
Bon, ben dis donc.
On a plein d'épisodes en perspective là. Faut faire un truc nouveau détective. Brisons la glace. Détectons les preuves.
En brise, et ça va se transformer en affaire sensible.
C'est ça.
C'est ça.
Ouais, bah, en tout cas, merci d'avoir présenté ce fait divers glauque.
Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. J'ai peut-être un peu plombé l'ambiance.
Alors pour
c'est pas comme si c'était la saison la plus dark de l'année, tu vois.
Non, alors. C'est clair. Non, mais j'aime bien. Moi, je ramène un peu de la joie, du sourire, de la légèreté. C'est sympa.
Et alors, on va s'aérer un petit peu. On va écouter ta sélection musicale. Qu'est-ce que tu nous fais écouter?
Alors, je vais vous faire écouter The Seamstress de Loyle Carner. Je ne sais pas si vous connaissez Loyle Carner. Je recommande vivement d'aller l'écouter puisqu'il a sorti des albums de dingue. Il a fait des feats avec tout le monde. Enfin bref, c'est génial. Voilà, je recommande vivement. See, I just pour another glass, like I ain't up in the morning, still yawning from the last night. Time never been on my side, sit as the stars fly. Cause dark eyes turn bluish, need something newish. Half dark, half Jewish, I want someone to ruin all this dark I'm doing. From the far side, fluent in that far side sewage. I knew it, knowing that she could beat this. Deep stitch had me roving like the seamstress. Got me say I wouldn't repeat this. But deep this, reckon she could beat the seamstress. Brisons la glace.
Eh bien, de retour sur notre podcast Brisons la glace, nous avons parlé de ce fait divers près de Kristiansand et on va passer complètement à autre chose avec l'épisode 2 des Explorateurs avec toi, Valentin. De qui tu vas nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais parler de Amundsen. Donc, si vous avez parlé de Nansen, vous avez sûrement entendu parler d'Amundsen qui est en quelque sorte son successeur. Même si les deux ont un peu cohabité à la même époque. Alors je rappelle un peu que, si vous avez raté l'épisode sur Nansen. Nansen, lui, il avait, comme je le rappelle, il avait exploré du coup, le Groenland, il avait tenté d'atteindre le pôle Nord, en vain, mais à bord quand même de ce superbe bateau qui est le Fram, qu'on peut toujours visiter du coup au Fram, au musée du Fram.
Et il y a les super toilettes.
Et les super toilettes.
Je m'en rappelle.
Emma, je sais, elle te recommande les toilettes du Fram. C'est un callback de l'émission de la dernière fois.
Emma, on pense à toi.
Ouais.
Donc du coup, on va parler de Amundsen, qui est forcément un peu plus jeune que Nansen. Donc Nansen, je crois, est né en 1861, mais Amundsen est né en 1872. Il est né près de Fredrikstad, donc pas très loin d'Oslo, encore une fois. Comme Nansen, c'était aussi un crack en ski de fond, décidément.
En tant qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire
Fredrikstad.
Yatsé.
Et il va se lancer aussi, lui, dans de sacrées aventures. Alors, la première, c'est... Alors, d'abord, il faut savoir qu'Amundsen, sa mère l'a dit « Tu seras médecin, mon fils. » Et il était là, j'ai rien navigué. « Non, non, tu seras médecin. » Il a dit « Oh, ok, tu sais quoi, je vais être médecin. » Ok, je vais être médecin.
Si tu veux.
Donc, il est devenu médecin. Il y a des gens comme ça. C'est comme Christine the Queen qui a fait Normal Sup. Et puis après, elle s'est dit...
Révélée.
Elle s'est révélée en tant que chanteuse. Bref, alors lui, il a fait médecine. Et puis après, il s'est dit « Bon, je me barre, maintenant je vais naviguer. » Donc, il va rejoindre en 1897 une exploration belge qui veut aller explorer un peu l'Antarctique à des fins scientifiques. Et ça va se transformer en fiasco, mais en sacrée leçon pour Amundsen. Bon, alors, le bateau part. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il arrive, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il reste coincé. Il reste coincé pour la glace.
Dans la glace. Ouais.
Donc, pénurie de vêtements. Il y avait aussi pénurie d'aliments. Personne ne se rend compte que quand on n'est pas exposé au soleil, on commence à avoir des carences. Tiens, quelle drôle d'idée.
C'est quel mois de l'année
ils sont restés 2 ans, je crois.
Ça me fait frissonner.
Et quand tu dis pénurie de vêtements, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'ils avaient des vêtements qui n'étaient pas assez chauds, apparemment.
D'accord.
Oh, ils étaient tous en poil. Non,
vraiment. Il restait une chaussette.
Donc certaines commencent un peu à péter à câble aussi, donc des personnes qui deviennent malades mentalement, on a qui partent du bateau juste à la marche, qui se disent je vais rejoindre la Belgique.
De la Belgique depuis l'Antarctique.
Il y en a qui sont en Antarctique et qui
sont déjà rentrés à la maison.
Ils viennent fous et il y en a un qui apparemment a dit bon je me barre en Belgique et du coup il a sauté par-dessus bord, il a marché sur la glace et puis on l'a plus revu du coup.
Il est mort.
Et en chemin. Vous êtes vraiment vraiment mauvaise langue. Il est juste parti prendre l'air il y a 100 ans et on est toujours pas revenu.
Il allait acheter les clopes.
J'avoue, ça devait être une ambiance de maboule au fond de ce bateau. Quoi. C'est un peu genre, qu'est-ce qu'on est serré.
Et ils ont aussi la scorbut qui apparemment vous donne au début de la fatigue. Et puis à un moment, vos plaies cicatrisent plus et vous devenez... ça a aussi un effet mental. Bref, vous mourrez de pénurie, de manque de vitamine C. On ne connaissait pas encore les vitamines à ce moment-là. Mmh. On commence à se rendre compte que la viande crue de morse, alors Simon, sachez ça permet de compenser un peu toutes ces carences. Donc, si, voilà.
Et ça donne pas mal au ventre aussi, la gastro.
Si j'ai vous êtes en carence. C'est...
Ça peut jouer, effectivement. C'est pas très ragoûtant aussi.
Carpaccio de morse. Allez, les enfants, terminez vos assiettes.
Donc ça se passe pas bien. L'expédition revient. La moitié de l'équipage est malade mentalement. Et ils n'ont pas fait toutes les mesures scientifiques qu'ils voulaient faire, même aucune apparemment. Fiasco. Du coup, Amundsen comprend qu'il a des choses à apprendre, mais déjà pas mal appris. Il va se lancer dans une petite expédition qui s'appelle, un bateau qui s'appelle la Gioa, et qui va essayer de trouver un petit chemin entre l'Atlantique et le Pacifique. Alors, pas en passant au nord de la Russie, mais en passant au nord du Canada, parce que toutes ces îles, c'est un peu compliqué de zigzaguer. Et donc, il va atteindre son objectif de relier finalement l'Atlantique et le Pacifique à bord de ce bateau, la Gioa, qu'on peut aussi visiter au Fram Museum. Décidément.
Deux musées en un, quoi.
Deux bateaux en un, ouais.
Et les toilettes.
On n'oublie pas les toilettes.
Surtout pas.
Mais du coup, en parlant du Fram, il se trouve que ce bateau, une fois l'expédition de Nansen terminée, finalement, va resservir. Il va servir à Amundsen. Donc, on rappelle que Nansen avait échoué à atteindre le pôle Nord en 1996. Mm-hmm. Et Amundsen s'est dit, je vais le faire, moi. Donc, il se prépare, il commence à avoir les financements auprès des universités pour faire des mesures scientifiques là aussi. Il a l'équipage, tout est prêt. Nansen est convaincu qu'il faut prêter son bateau à Amundsen. Bref, super, on est prêt. Sauf qu'en 1910, il y a un Américain, Robert Perry, qui dit le pôle Nord, moi je l'ai eu. Il a réussi à atteindre le pôle Nord.
Ah merde, il s'est fait couper l'herbe sous le pied.
Et ouais, par un gringos. Et du coup, les sponsors d'Amundsen ne le lâchent pas, le disent tu sais quoi, on t'a payé pour faire des mesures scientifiques, vas-y quoi, genre amuse-toi. Mais lui, il voulait le record quand même, il voulait entrer dans le Guinness.
Ouais, il a l'orgueil quoi.
Ouais. Et du coup, alors, il est face à un choix. Soit il annonce à tout le monde qu'il change de plan, il part au pôle Sud, mais du coup, ses sponsors le lâchent.
Ah.
Soit il part au pôle Nord et du coup, il est un peu aigri. Du coup, qu'est-ce que vous feriez à sa place?
Mais il va au pôle Sud.
Oui, mais du coup, il ne peut pas l'annoncer. Mais du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter dans le bateau avec son équipage. Il va dire, on va au pôle Nord, c'est quoi.
En fait, il ne va pas.
Et à un moment, à Madère, donc près de Portugal, sur une île portugaise, il dit, en fait, on part vers le pôle Sud.
Ah bah non. contre Kems, quoi. Ouais.
Donc finalement, il fait froid aussi, ça marche. Donc les voilà arrivés en février 1911. Ils vont construire un petit refuge, le Framheim, et ils vont se lancer vers l'expédition vers le pôle Sud avec donc 5 hommes. Certains restent sur place dans le refuge, mais 5 hommes du coup partent en direction du pôle Sud avec 4 luges, 52 chiens. Retenez bien ce chiffre de 52 chiens, c'était très important.
Il va falloir suivre combien de chiens survivent.
J'adore.
D'accord. Bon. Ok.
C'est surtout le chiffre de 52 chiens. Du coup, il va falloir se lancer dans une grande traversée avec des missions de reconnaissance avaient été conduites en avant. Ils avaient pu construire des petits dépôts en avance quand même, où ils ont pu stocker, tenez-vous bien, 3400 kg de stock, comprenant 1400 g de viande de phoque. Encore une fois, on y revient.
Okay.
Cru toujours.
Ça pas de chaud.
À congeler là, carrément, je pense.
Ouais, un peu congelé. Ouais. Donc, après plusieurs tentatives, ils ont un peu du mal à partir. Ils ont dû rebrousser chemin plusieurs fois. Mais à un moment, le moment est venu. Il se lance. C'est en février 1911, je crois. Bref, on s'en fout des dates.
Ouais.
Et sauf qu'on peut penser que l'Antarctique, c'est tout plat, ça glisse, on continue tout droit. Sauf qu'en fait, à un moment, il y a une chaîne de montagnes. Et je découvre cette chaîne de montagnes qui s'appelle du coup la chaîne transantarctique en français.
Ok.
Qui se compose d'au moins 20 sommets qui font à peu près 4000 mètres de haut.
Ah, quand même! Voilà. C'est pas une plaine, quoi.
Ouais, il faut traverser cette putain de montagne. Donc, du coup, on va arriver avec. Ils vont réussir à franchir la montagne en empruntant un glacier. Donc, faut imaginer la mer de glace en France. Imaginez qu'on remonte la mer de glace pour franchir les Alpes.
Oui, totalement.
Qui est en train de fondre, d'ailleurs.
Tous les lundis matins.
Et ils arrivent un moment, ils disent en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a faim. Il y a des chiens qui ont faim.
52
chiens qui ont
faim. On va bouffer des chiens.
Non.
Oui.
Non.
Si. On va buter des chiens.
Je peux écouter, moi, c'est bon.
je rebondis sur ton histoire morbide.
Bah ouais, mais c'est des chiens, là, c'est... on parle d'autre chose.
Donc, on passe de 52 à 52 chiens à 18.
Ah, quand même.
Donc, ça fait un petit stock de viande donc, pour les chiens et pour les hommes. Et ils continuent la marche à pied pendant 10 jours jusqu'au pôle sud pour finalement atteindre, en décembre, le 14 décembre 1911, à 2800 mètres d'altitude, ils sont partis à peu près au niveau de la mer, le pôle sud. Et retour maison, donc ce qui représente à peu près 99 jours de voyage et 3400 km parcourus.
Aller-retour ou aller ?
Aller-retour.
Ouais, okay.
C'est beaucoup.
Ouais.
Et ouais, après, donc, Amundsen, bon, on entendra encore parler de lui. La plus emblématique de, ce que j'ai trouvé la plus emblématique de ces expéditions, c'est la traversée du pôle Nord en dirigeable avec des Italiens en 1926. Apparemment, les Italiens...
Il s'est dit, je ne l'aurai pas à la marche, hein, je vais aller en dirigeable.
Il aurait mon record quand même.
Et apparemment, il y a une petite polémique parce que les Italiens qui ont mis un drapeau plus grand que le drapeau norvégien. Ah,
c'est pas la taille qui compte.
On connaît le patriotisme, ouais, c'est clair.
Et alors, j'ai parlé des Belges qui ont failli avoir la peau d'Amundsen, mais en fait, évidemment, c'est à bord d'un avion français qu'Amundsen va périr avec un crash lors d'une mission de sauvetage en 1928.
Oh, la mort nulle.
Ouais, cause de nous.
Attends, le mec, il explore le pôle Nord, le pôle
Sud.
Alors,
autant sa vie, c'était cool, mais alors,
c'est tout, il y a rien de raisin.
il est mort pendant qu'on essaie de le sauver ou parce qu'il est en train de sauver quelqu'un?
Alors, il voulait sauver quelqu'un en plus.
Non, ok, j'ai peut-être parlé trop vite, c'est quand même une...
c'est héroïque,
honorable,
mais, mais un peu.
Mais je veux dire, c'est
triste,
dommage quoi, qu'il meure comme ça.
Parce que l'avion s'écrase.
Ouais, apparemment, c'est un hydravion qui a pas bien améri. Ça arrive.
Il y a un super beau biopic de Amundsen avec. Paul Sverrehagen, qui est un super acteur norvégien qui joue dans Exit, si vous connaissez cette série sur NRK. Lui, qui a joué aussi dans plein d'autres films. Et le biopic est assez fidèle, je pense, à la réalité. Il est hyper bien, je vous le recommande chaudement. Il montre aussi que Amundsen était donc une espèce de héros national et la bataille pour l'Antarctique contre Scott,
ouais,
qui finit congelé à cause de ses machines, alors qu'Amundsen survit grâce à ses chiens. C'est genre épique, c'est ouais, incroyable. Mais ça montre aussi que le mec était quand même vraiment... Enfin, il avait un gros ego. Je pense qu'il faut ça. Pour mener une expédition,
ouais,
pareille.
Il faut être sûr de soi, ouais.
Mais ça ne le rend pas méga sympathique auprès des gens qu'il aimait, sa famille.
Ouais. Parce qu'il a passé beaucoup de temps ailleurs.
Exact. Et puis surtout être dans ses tripes à lui, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai que elles sont incroyables, ces histoires. Moi, j'adore. Je ne savais pas que c'était à 2800 mètres d'altitude.
Mais c'est vrai qu'il s'est foutu dessus avec un autre mec pendant l'expédition.
Parce que les Anglais faisaient la course à l'Antarctique. Et d'ailleurs, ouais, les pôles, ça reste un sujet géopolitique, même à l'heure actuelle, maintenant, avec la fonte des glaces, l'Arctique, même les Chinois, ils sont au conseil de l'Arctique maintenant. Tellement ça va ouvrir des routes commerciales, ça pose des questions géopolitiques et tout. Mais n'empêche qu'à cette époque-là, c'était les Anglais. Et Scott, il est parti avec une machine et il est resté congelé au milieu, quoi. Rire satanique.
Un Futurama. Bon ouais, merci pour ce deuxième épisode des explorateurs norvégiens. On va faire une petite pause musicale. Tu nous as choisi.
Alors, j'ai choisi Acapulco. Alors, c'est pas du tout parce que c'est Amundsen. Quoique Amundsen est plus proche du Mexique cette fois-ci que Nansen. Mais bref, je veux du soleil, je veux de la chaleur. Ouais. Et voilà, j'ai trouvé Acapulco comme musique. Donc, okay. Faites-vous du bien.
Acapulco, le Mexique.
Vous êtes si beau.
Ça, c'est la musculation.
Ah, tous ces poils.
C'est beau, hein.
Votre moustache.
Depuis mes 17 ans.
Ce slip de bain.
Il est jaune et il est pas mal.
Tout cet argent.
Je suis chanteur, alors j'en ai beaucoup.
Waouh, chanteur.
Ouais, la position du tireur couché.
Hey, mais j'adore ce groupe.
On a pas mal de succès, ouais.
Acapulco.
Brisons la glace.
Eh bien, de retour, c'était Acapulco, la position du tireur couché, la sélection de Valentin. C'était sympa. Et on va faire une transition avec toi, Cécile. Tu es partie à la rencontre des Français et des Françaises en Norvège.
Exactement, ou plus précisément, ou alors plus largement, des francophones de Norvège, parce qu'il y en a plein. Alors, après l'épisode d'aujourd'hui et les viols, les chiens, les histoires de Roxane, les histoires de Valentin et des chiens mangés, je ne sais pas si la barre va être assez haute pour ce que j'ai préparé, mais je pensais vous raconter ça, parce que c'est franchement super sympa. En gros, l'histoire est la suivante. J'ai commencé à faire un spectacle de stand-up en français à Oslo, et puis la boule de neige, sans mauvais jeu de mots, a brisé la glace, et me voilà en tournée donc pendant quelques mois qui sont passés à Trondheim, à Tromsø, qui l'eut cru, à Stavanger, à Bergen. Et puis là, du coup, je prépare une autre tournée avec un humoriste qui vit en France, du Jamel Comedy Club, dans toute la Scandinavie, Oslo, Stavanger, mais aussi Stockholm, Copenhague et Göteborg.
Instant promotion.
Instant promotion. C'est clair, tapez le 3615. Et donc, ouais, ce que je voulais vous raconter, c'était que c'était vachement sympa parce qu'en fait, quand tu fais un spectacle en français, donc, tu tapes un peu aux portes des instituts, de l'ambassade et puis aussi surtout des groupes Facebook qui continuent de fonctionner, mais extrêmement bien pour ramasser du francophone. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que donc, j'ai rencontré des Français, j'ai rencontré des...
Belges.
Ouais,
Québécois.
Des Québécois. Ouais, j'ai rencontré des Québécois.
Des Luxembourgeois.
Alors ça, non, j'ai pas rencontré des Luxembourgeois. Des Marocains.
Des Suisses.
Des Suisses et même un Comorais qui sont venus. Et alors, ce qui est toujours marrant, c'est d'ouvrir le spectacle en demandant aux gens pourquoi vous êtes venus en Norvège. Est-ce que, autour de cette table, vous pouvez... Il n'y a pas beaucoup de questions pièges. Devinez quelles sont les raisons majeures pour lesquelles les francophones viennent vivre en Norvège.
L'amour.
Très bonne réponse de Valentin. L'amour.
Ouais. Okay,
le travail.
Tout.
Le travail. Quel genre de travail, à ton avis?
Où tu gagnes de l'argent beaucoup.
La réponse d'étudiant. Tu peux payer une tournée de bière sans pleurer sur ton PEL.
Exactement.
Et ben ouais, c'est vrai. En fait, effectivement, alors, à Stavanger, les gens travaillent dans le
pétrole.
Ouais, pétrole, très bonne réponse. Ouais. À Trondheim, est-ce que vous pouvez deviner ce que font les gens à Trondheim?
La culture pétrolière.
Non, en fait, c'est un pôle d'ingénieurs. Il y a NTNU qui recrute plein de gens avec des têtes bien faites. Et figurez-vous qu'en France, on pompe plein d'ingénieurs avec des têtes bien faites. À Tromsø, les gens travaillent dans le
Rennes.
Ouais. Le tourisme. Et aussi, et je savais pas tout ça quand j'ai demandé. Les gens étaient là. Alors, attends, je te brief pour que tu saches quoi dire sur scène. À Tromsø, les gens, il y a aussi beaucoup de. C'est un pôle de recherche sur.
Vous savez, les aurores boréales.
Arrête de dire que des conneries, Suzanne. Non, mais je pense qu'en plus, c'est pas complètement une connerie. Je suis vache parce que je crois que. En fait, je crois que les gens, ils font des recherches sur des trucs de. Bon, mes deux parents étaient ingénieurs, ça m'a un peu traumatisée. Du coup, je suis pas ingénieure. Mais en fait, non, mais mes parents, ils étaient ingénieurs en mode.
Et du coup, tu as fini
quand
humoriste.
J'étais petite, ils me disaient cosinus carré plus sinus carré égale 1, bonne image, chérie.
D'où l'humoriste.
Ouais, non, ils travaillent dans des recherches polaires. Tu sais, ils font de la recherche sur le futur des glaces, des trucs. Non, pourquoi est-ce qu'ils disaient les gens ? Non, mais plein de gens sympas. Donc, c'est un peu marrant de voir que tu as à la fois par ville des types de personnes. Et puis après, alors, ce qui est marrant dans les Français de Norvège, c'est ça que je voulais vous dire aussi, et j'adore, tu as un petit pourcentage de personnes qui ont vu de la lumière et qui sont rentrées. C'est-à-dire des gens qui sont complètement rêveurs, qui sont là... On a vu un épisode d'Échappée Belle. Je vous promets, les gars, je vous promets
génial.
Que c'est vrai. Et on s'est dit, on y va. On a tout plaqué pour construire une éco tiny house dans les Lofoten.
Oh, merde.
Depuis, on se galère trop parce qu'on n'a pas d'argent.
Bah, ouais.
Souvent, ces gens-là, en plus, sans vouloir être mauvaise langue, et c'est un peu le cliché du français, ils parlent pas norvégien et ils parlent pas vraiment anglais non plus. Mais ils sont au taquet.
Mais ils y croient.
Mais c'est assez charmant, du coup.
Ils sont
gentils
ou pas, ces gens-là?
Trop sympa. De toute façon, attends, ils viennent boire des bières et rigoler. Déjà, ça, c'est sympa. Donc, j'ai rencontré plein de gens avec des parcours super impressionnants. Ça, pour le coup, c'est vrai. Des restaurateurs, des profs de ski. C'est stylé. J'ai rencontré une Savoyarde qui est prof de ski pour les Norvégiens. Allez vous faire rhabiller les Johannes Bø et compagnie. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait, quand tu fais ce spectacle, c'est pas très compliqué de faire rire les gens parce qu'on a tous réagi à la première visite chez le médecin, par exemple, qui est assez différente de ce à quoi on est habitué en France, à la nudité dans les vestiaires des salles de sport, ou encore à le coût de la vie et la bouffe en France. Et ce qui est aussi marrant, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sorte de hiérarchie tacite vachement marrante. Quand j'étais à Trondheim, par exemple, il y avait des gens qui étaient là depuis 30 ans. Alors, quand tu es en Norvège depuis 30 ans, on te la fait pas, toi.
Non.
T'as rien à apprendre des autres. Et c'est vachement marrant, l'espèce de hiérarchie un peu tacite où les gens, ils sont là. J'ai encore vu des nouveaux bandes de tocards qui convertissent en euros. Enfin, moi, quand je suis partie de France, on était encore en francs. Allez, vous Mais vraiment, plein de gens sympas. Et beaucoup qui kiffent la Norvège. Alors, au prochain épisode, j'espère vous parler des Français de Scandinavie, parce que me voilà partir à la rencontre tout bientôt des Français du Danemark et des Français
notamment à Copenhague.
Comment ?
Notamment, tu vas à Copenhague.
Notamment à Copenhague. Alors, j'ai quand même un tout petit peu fait de recherche sur mes textes de est-ce que ça va faire aussi rire les Français du Danemark et de Suède. Il y a des choses qui sont très norvégiennes et il y a quand même beaucoup de choses qui, je pense, sont très scandinaves en général, notamment sur la façon d'exprimer les sentiments, les façons de fonctionner en groupe. Comment ?
La Jantelov.
La Jantelov, elle existe aussi au Danemark ?
Oui, en Suède.
Ouais.
Ah, et en Suède aussi ?
Qu'est-ce que ça semble-t-il ? Ben le one on one Jantelov, ben tous les habitants sont à la même valeur. T'as pas le droit de te la péter, t'as pas le droit d'être meilleur ou donc en fait même si tu
peux être le meilleur mais tu t'as pas le droit de le montrer.
Ouais. C'est une sorte de modestie.
Ils essayent de ouais, mais c'est même plus c'est presque du carcan, tu sais, ça t'empêche d'être toi. Parce qu'il faut que tu sois dans ce moule.
Donc ça prône le positivisme, mais au final, ça fait quelque chose un peu de négatif.
Ouais, en gros, je crois que c'est l'idée que c'est genre l'espèce de t'as un peu raison, c'est un peu l'espèce de diktat de l'égalité sociale forcée,
ouais.
où on te dit depuis le début, personne n'est mieux que les autres, et il faut pas que tu crois que t'es mieux que nous. Et c'était un Danois ouais. qui a changé de nom incognito pour se faire pour devenir écrivain en Norvège, c'est ça, c'est Axel Sandemussen.
Ok, je sais pas.
Je crois que ouais. c'est ça. Et lui, il a écrit des lois qui sont restées genre très ancrées dans l'espèce de rigorisme luthérien des Scandinaves, à savoir que on fait pas de plis, on croit pas qu'on est mieux que les autres. Et ça reste ancré par exemple dans la pédagogie des écoles où on met pas trop de notes, où on fait attention à ce que tous les enfants soient toujours inclus, invités, etc. Oh, donc ça a plein de côtés qui peuvent être très positifs. Dans un autre côté, il y a aussi vachement d'hypocrisie dans le fait que par exemple dans le sport, les gens ont un très gros concurrence.
C'est de la compète quoi.
Ouais, exactement, un sens de la compétition assez fort dans le sport. Cette Janteloven, elle s'écaille assez vite quand moi par exemple je vis dans un quartier où tout le monde roule en Tesla et un appartement à Marbella. Donc Janteloven, elle est gone, long
avec
gone.
Avec ça, comment est-ce que tu peux considérer que tu as de la valeur, même sans, parce que déjà le fait de dire tu n'es pas meilleur que les autres, ça veut dire que tu pars du principe que tu peux être meilleur que les autres, alors que de base tu te dis pas ça. Enfin, ou alors ça
oui,
peut arriver.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Mais c'est plutôt que dire.
Eh ben, c'est un anti-élitisme.
Ouais, mais je veux dire, il est mal. Enfin, je viens de l'apprendre. Je vais bien de le juger aussi. Et je me casse dans un mois, donc c'est pas mon dos. mais c'est juste. Je sais pas, c'est dommage de mettre ça comme ça. De dire à partir de.
Après, c'est ancien, tu sais, je crois que ça a quoi, 200 ans ?
Ah oui,
mais c'est des lois, c'est une loi non écrite.
Ouais,
ok. Elle est non écrite.
Mais donc
c'est un livre, c'est l'un d'un livre, c'est ça.
C'est la loi de Janteloven.
Pour moi, c'est pas.
Ah non, attends, non, elle a été écrite il y a 90 ans, en 1933.
Oui, mais après, je pense qu'ils se sont un peu déviés de tout ça, mais il y a quand même des séquelles, quoi.
Oui,
tu vois,
ça reste.
C'est ils
suivent pas tout. Tu crois que tu es quelque chose. Il ne faut pas que tu crois que tu.
Que tu es quelque chose.
Ouais.
Enfin, tu vois, c'est quand même hyper réducteur.
Ah bah oui, c'est.
Tu n'es rien, tu es une grosse merde. En gros, c'est un peu l'idée que ça.
Non mais je pense qu'après ça infuse après au niveau du vêtement. Enfin, moi je suis aberré par la ressemblance vestimentaire des gens.
Ah oui.
Mais
oui.
Ça c'est avantages et inconvénients. Mais après, je veux dire professionnellement, genre, enfin moi je la sens. Il y a pas de. Enfin,
c'est pas très très plate.
Là où en France on pouvait te prendre de haut facilement parce que t'es un nouveau qui arrive. Et ben professionnellement en Norvège j'ai jamais eu cette impression-là.
Non, c'est clair. Et en soi c'est une super idée. C'est juste j'aime bien jouer sur les mots là-dessus, mais.
Ouais.
Bah, le texte est extrêmement rigoureux, c'est pas très fun. Je te laisserai le regarder, t'as raison.
Mais c'est cool qu'il y ait cette égalité et le fait que personne ne te mette sur un piédestal ou quoi, mais c'est aussi. Je sais pas,
Oui, je comprends, c'est
permettre. Plus, on parlait plus d'égalité plutôt que de se dire je ne suis pas meilleur que toi, parce que c'est ne pas prendre en compte sa propre valeur aussi, d'une certaine manière.
Ouais, et après, il y a plein de paradoxes dans cette Janteloven et comment elle est pratiquée actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a cette. Enfin, je sais pas, peut-être si t'as plus de. Dans la hiérarchie, tu es peut-être celle qui.
Je vais faire un cours. Non, mais effectivement, par exemple, ma belle-mère qui était prof de maths, par exemple, elle te rejoignait en disant que l'inconvénient de la Janteloven, qui reste quand même très ancrée dans la pédagogie, c'est qu'on tire pas vers le haut les très bons éléments, on les stimule pas pour que tout le monde reste au même niveau. Mais à l'inverse, elle est super bon côté, des hiérarchies très plates. C'est quand même relativement incluant. Mais je suis d'accord avec toi, moi je trouve que c'est une société qui fait pas beaucoup de place aux gens qui veulent être très différents. C'est pas facile d'être très différent. Regardes même dans les écoles, les enfants, ils ont les mêmes prénoms, les mêmes sacs à dos, les mêmes vêtements. Enfin, c'est des gens qui ont les mêmes endroits en vacances. Quand t'as des gosses, si t'es pas à la Dyreparken i Kristiansand, t'es un loser parce que toute la Norvège va à Dyreparken i Kristiansand.
Ouais, loser quoi. tu vas pas à coups. C'est quoi cet endroit?
C'est un zoo.
Ok. Ah. Merci de préciser.
Non mais il faudrait que. Ouais, c'est sûr que.
C'est extrêmement formaté quoi. C'est extrêmement normalisé. Il y a une façon et pas beaucoup d'autres d'éduquer les enfants, une façon et pas beaucoup d'autres de penser.
Ouais, en parlant de ça, j'ai suivi cette semaine il y a plusieurs écoles, comment on appelle ça, comme Steiner School ou Montessori, donc les écoles alternatives, peut-être qu'on peut les appeler comme ça, apparemment le gouvernement aurait l'envie de moins les sponsoriser, de leur donner moins de subventions à l'avenir. Et donc, il y a beaucoup de gens qui protestent sur ça, justement, parce que ces écoles-là sont très différentes. Ouais. Hein, du coup, peut-être qu'elles n'appliquent pas la Janteloven et qui incitent les enfants à devenir eux-mêmes, avec leur propre personnalité.
Je crois que c'est un peu
personnalité.
C'est à peu près pareil pour les écoles d'art.
Ah, okay.
C'est ce que j'ai un pote qui est en école de photographie. Et il m'a dit que le gouvernement et l'État voulaient fermer plusieurs écoles d'art en Norvège, quoi. Et que c'est hyper dommage parce que c'est enfin que et que donc il y a des protestations, enfin Lui, il est dans une école qui te prépare pour aller dans une école d'art reconnue par l'État, etc. Et le gouvernement voudrait supprimer ces écoles-là. Donc, c'est-à-dire que ça coupe court déjà à l'art de manière générale, à la créativité. Et ça rajoute de l'élitisme en plus. Parce que tu fais partie de cette grande école où on te considère absolument pas comme quelqu'un de créatif et tu peux pas exprimer ce que tu veux, quoi. C'est ce que j'ai entendu dire. Et aussi, ce même pote m'a dit qu'il y a un parc dans Oslo, près de Grünerløkka, où c'est une sorte de grand bâtiment assez joli. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je suis passée à côté. Et peut-être que c'était un truc d'exposition. Et il y a des travaux pour le transformer en toilette publique.
Tu parles de Blo à côté de Blo?
À côté de Blo, ouais.
Ah, c'est dommage, ouais, parce que c'est un peu la représentation du street art et de la culture un peu.
Ça va être transformé en chiottes. C'est
dommage, là.
Mais ouais, mais enfin, c'est en plus un énorme truc. Et je me dis, mais qui a besoin d'autant de chiottes? Enfin, surtout qu'en plus à Oslo, il y en a plein.
Ah, c'est pas Fram qui a besoin de.
Ça, c'est clair.
Tout le truc de Blo?
Ouais. Non, mais c'est pas Blo qui va être transformé, c'est à côté. C'est à 5 minutes à pied. C'est derrière le parc qui est derrière Blo. On va dire. Je connais pas ma géographie.
Affaire à suivre des toilettes transformées. Enfin, d'un lieu qui serait transformé pour la toilette. Un peu dommage. Moi, ce que je trouve, c'est que ça s'américanise beaucoup. Le côté en bling-bling, en fait. Hein. Est-ce que tu crois qu'il y a eu un changement dans les dernières années, Cécile?
Dans la société norvégienne?
Ouais.
Bah, c'est clair qu'il y a des traditions américaines qui sont de plus en plus à la mode. Après, les Norvégiens.
Halloween.
Exactement. Très bon exemple.
Ça, c'est partout.
Ouais, exactement. Donc, je sais pas si c'est que norvégien, en fait. C'est vrai que t'as raison.
Mais le côté, tu vois, j'ai la Tesla, je le montre à tout le monde. Est-ce que ça, c'était...
Oh, il y avait ça dans les années 80-90 en Norvège. Ouais, ouais.
Avec d'autres choses.
Avec d'autres choses, ouais.
Donc, c'est quand même... on peut pas être mieux que l'autre, mais quand même, on a envie de montrer que...
On est mieux que les autres pays, en fait, plutôt. À la limite. On est entre Norvégiens, on est...
Ils sont méga patriotes, mais ils sont plus sur la défensive que l'offensive là-dessus, je pense.
Ouais.
Mais ils sont quand même extrêmement patriotes. Moi, je me souviens que la première fois que je venais ici, je me demandais, mais c'est une fête nationale, pourquoi il y a autant de drapeaux? Pourquoi il y a des drapeaux sur les concombres au supermarché?
C'est un truc de fou. Non, c'est clair.
Quand mes enfants sont nés, je me souviens que la sage-femme, elle avait sorti son petit drapeau norvégien en disant, allez hop, un nouveau citoyen norvégien. C'est pas le truc dont j'avais besoin en priorité, tu vois.
Ouais,
pour eux, c'était genre big deal, normal de. Allez.
Genre, on a marché sur la lune.
Ouais, first thing first, un bébé, un drapeau. Chac.
Ouais.
Bon, en parlant de patriotisme, tu nous as choisi un morceau de VG Dream.
J'adore cette chanson.
Ramener la coupe à la maison, ce sera notre pause musicale, choisie par Cécile.
Ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après, c'est le moment. Allez les bleus, allez. Ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après, on est champion. Allez les bleus, allez. Hey, on est ensemble. Antoine Griezmann, penalty. On est ensemble. Hey, on est ensemble. Nabil Fekir, Tolisso, on est ensemble.
Brisons la glace.
Eh bien, de retour dans notre podcast Brisons la glace. On a parlé des Français en Norvège que tu as rencontrés. C'est celui-là, un peu de Yantolov aussi, que tu découvres, Roxane. Je voulais parler du sujet. On est mi-novembre, ça y est, on est halfway through, le mois que je déteste le plus au monde, le mois de novembre. Et c'est aussi un mois qui a une idée des primes, encore une fois, c'est Movember. Voilà la cause. Bon, après, c'est une belle cause pour sensibiliser au cancer masculin, donc le cancer de la prostate ou des testicules, mais aussi pour la santé mentale des hommes, qui est un sujet assez balayé. En fait, on n'en parle pas vraiment.
Ouais. Heureusement que Bjørnar Moxnes vole dans les supermarchés.
C'est ça. Donc, il y en a qui sont
clairement. Finalement, on peut le remercier.
Il y en a qui sont klepto, mais bon, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont suicidaires et qui se suicident chaque année. Donc, c'est un peu la cause de Movember, c'est un peu faire la lumière sur tout ça. Donc, c'est vrai que c'est parti de la moustache, donc d'abord le 31 octobre, donc de tout se raser, et après le reste du mois. Donc, voilà, j'essaie de participer, mais ça donne pas grand chose. Non, mais le but, voilà, c'était d'utiliser les réseaux sociaux un peu pour sensibiliser à tout ça. Et c'est aussi une période pour inciter les hommes à se faire tester, parce qu'il y a des tests pour le cancer de la prostate. Non, je ne sais pas si vous... Est-ce que toi, tu es sensibilisé du tout, Valentin, à tous ces problèmes en tant que le seul homme Notre tablé.
Non, santé mentale. Après, je pense que c'est un sujet qui est arrivé avec le Covid quand même, la santé mentale des jeunes, à travers la santé mentale des jeunes, après santé mentale des hommes en particulier. Donc, je ne sais pas... je ne suis pas trop sensibilisé, je veux dire. Après, pour la prostate, je dirais que moi, je sais qu'il y a un contrôle à faire à 50 ans, je crois.
Ouais, c'est à partir de 50 ans. Donc, il y a le test PSA, Prostate Specific Antigen. Donc, ils vont mesurer les nombres d'antigènes de la prostate dans le sang. C'est conseillé, s'il y a des antécédents familiaux, de le faire à partir de 45 ans. Et aussi, si jamais on est d'origine africaine ou caribéenne. Mais parce qu'il y a quand même un gros sujet du cancer, même en Norvège. Donc, ça reste la première cause de mortalité en 2021, avec plus de 11 000 décès.
Après, c'est... Le cancer, là,
en général, de cancer. Mais c'est vrai que les hommes, peut-être que tu peux nous contredire, mais ont moins tendance à dire ce qui ne va pas. Mm. Et le problème du cancer de la prostate, notamment, c'est qu'en fait, il ne faut pas attendre qu'il y ait des symptômes pour aller se faire tester, parce qu'en général, c'est un peu trop avancé quand on commence à avoir des symptômes, en fait. C'est un peu le truc underground, quoi. C'est-à-dire que tu ne le sens pas arriver autant que, par exemple, le cancer du sein, qui est plus facile, quoi. Mm. Tu peux te palper... la poitrine et sentir s'il y a quelque chose de différent ou voilà, alors que la prostate, ben c'est tellement petit, puis c'est pas accessible, donc souvent les hommes passent à côté.
On se touche pas à la prostate.
On allait se coucher.
Ah bon, je savais pas.
Non, après, je pense que c'est des examens. Enfin, tout ce que je sais, c'est pour la prévention, il faut faire des contrôles, quoi.
Et ce qui est le mouvement de 60 km. Donc, le but de participer, c'est d'essayer de marcher ou de courir 60 km sur le mois de novembre pour mettre en avant que, en fait, chaque heure, plus de 60 hommes se suicident dans le monde. C'est énorme.
Ouais.
Donc voilà, c'était un peu le sujet.
Non, après, ce qui ressort, je crois, c'est que en général, les hommes ont tendance à moins parler de sentiments parce que c'est moins. C'est la construction culturelle. En général, c'est pas bien vu qu'un homme exprime ses sentiments. Je pense que ça fait partie beaucoup de ça. Puis après, finalement, ça rejoint un peu le sujet dont on avait parlé dernièrement. Mais il y a. Dans le féminisme, on essaie de combattre les attentes, entre autres, les attentes qu'on a vis-à-vis des femmes. Ouais. Et à quel point c'est opprimant pour les femmes. Et après, pour les hommes, c'est la même chose aussi. Des attentes par rapport aux hommes. Et quand on ne répond pas à ces attentes, ça peut être...
Complètement.
Ça peut mettre à l'écart. Donc,
J'ai vu un tweet aujourd'hui où Billie Eilish s'est exprimée sur le fait que les gens se permettent de critiquer ou d'exprimer leur opinion sur le corps des femmes, mais pas du tout sur celui des hommes. Donc, elle dit, un homme, il n'est pas musclé, c'est pas grave, etc., etc. Donc, c'est ce qu'elle dit, parce qu'elle dit que... les femmes sont plus gentilles, donc sont moins à même de critiquer le corps. Mais il y a aussi sur Twitter, j'ai vu ça, parce que maintenant sur Twitter, il y a souvent une mise en place où il y a une petite bannière en dessous du tweet, quand c'est peut-être une fausse information.
Ouais.
Des internautes ont dit que c'était une fausse information. Et donc sous ce tweet, il y a écrit qu'il y a environ plus de 10 millions d'hommes américains qui souffrent de body dysmorphia. Et la body dysmorphia, c'est le fait de voir son corps beaucoup plus, bien différent de ce qu'il n'est vraiment. Et donc, parce que Billie Eilish, dans ce qu'elle dit, elle n'a pas tort sur le fait qu'effectivement, on critique les corps des femmes beaucoup plus que celui des hommes, en tout cas quand elles sont exposées et médiatisées. Et il y a beaucoup plus d'harcèlement sur le corps des femmes que sur celui des hommes, mais ça n'empêche que le corps des hommes est aussi critiqué et que ça n'empêche que les hommes aussi se sentent mal dans leur peau. Mais c'est peut-être moins critiqué, donc là, voilà. Mais c'était intéressant de voir ça parce que ce que j'ai bien aimé, apprendre que 10 millions d'hommes aussi souffraient de ce truc, en tout cas juste aux États-Unis, et que c'était aussi important de rappeler que les hommes aussi souffrent et ont des troubles du comportement alimentaire, que eux aussi sont sensibles à autant de choses, voire plus sensibles que les femmes sur certains sujets, etc.
Alors après, on avait parlé de l'émission dernière de la ménopause, et on avait dit oui, il n'y a pas forcément d'équivalent chez les hommes, et si, pas sous la même ampleur, mais il y a l'andropause, qui n'est pas forcément très connue ou toujours identifiée, et parce que en fait, ça se manifeste différemment et c'est vraiment très graduel. Qui est en fait l'andropause et la baisse progressive du taux de testostérone, qui est liée à l'âge, simplement. Mais ça peut conduire à des sentiments de dépression, etc. Donc il y a quand même des effets de la baisse de ces hormones chez les hommes. Voilà, ils peuvent avoir des bouffées de chaleur, trouvent du sommeil.
Okay.
Et ça peut aussi affecter les os, donc avoir de la fragilité osseuse, perte de masse musculaire.
Mm-hmm. Ouais, c'est un peu aussi vieille,
le corps qui, quoi, ouais, donc il est avec ouais. ça, voilà.
Mais moi, il y a plusieurs fois où, pardon, je. Où, Suzanne, j'ai cru que t'allais parler du No Nut November. Je sais pas si vous savez ce que c'est.
Non.
Non.
C'est le fait de pas se masturber pendant tout le mois de novembre. C'est une sorte de concours débile, pareil que November, mais c'est juste un mec ne se branle pas pendant tout le mois de novembre. C'est une sorte de défi.
Par solidarité pour.
Je sais pas du tout d'où ça sort, mais ça. Enfin, moi, j'en ai. Enfin, pour moi, c'était connu, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on en parle pour rire entre nous. J'ai vu ça sur les réseaux, mais ça fait déjà 3, 4, 5 ans que j'en entends parler. Du No Nut November.
D'accord.
Vous en avez jamais entendu
Il faudrait faire l'inverse, en fait. Il faudrait faire l'inverse. Il faut qu'il se tâte, qu'il se tâte plus, quoi, pour ouais. voir s'ils. Si les testicules, il y a un problème.
Comme
tout
une
ça,
ode
faut...
à la vie.
Bah, c'est
mais
ça.
Mais du coup, par contre, c'est, le No Nut November, c'est un peu, ça reflète un peu ce qu'on est en train de dire sur les hommes et sur une certaine pression. Hein, bah, jusqu'où je tiens, je sens sans me branler. Vraiment que je tienne le plus longtemps possible.
Ouais. Peut-être les pressions.
C'est, hein. Tu veux dire dans un esprit de performance,
ouais.
Ouais. Masculinité exactement. Un peu toxique.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Moi, je me tiens super longtemps. Quoi. Et wow. les mimiques qui vont avec.
Donc voilà, si ouais, vous avez des hommes autour de vous qui ont plus de 50 ans, les tests pour le cancer de la prostate,
je t'allais dire, si vous avez des hommes autour de vous qui ont plus de 50 ans, surveillez que jusqu'au 30 novembre, ils ne se tripotent pas.
Vous serez le juge, faites-nous un message.
Publiez votre score en commentaire. De...
Combien de jours t'as tenu?
Non, ils recommandent de faire le test chaque année hein, pour ce PSA, prostate spécifique antigène. Donc n'hésitez pas, hein, c'est pas, ça peut toujours vous sauver la vie de le prendre assez tôt. Voilà, en ce mois de novembre, on pense à tous ces hommes qui se sentent pas bien. Parlez à quelqu'un, oui. N'hésitez pas.
C'est quoi le numéro d'aide norvégien ?
Donc, le numéro, c'est le 113 ou alors pour la santé mentale, le 116-123. C'est toujours, c'est ouvert 24 heures sur 24.
Parler à quelqu'un, ça peut être à n'importe qui dans son entourage.
Non, carrément. Et moi, j'ai grandi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé parmi la table, dans l'idée que, à un moment donné, quand chacun est prêt, chacun devrait aller voir quelqu'un de professionnel pour parler, en fonction de son aptitude à pouvoir le faire. Mais moi, je recommande à tout le monde, si l'argent, si le temps, si l'envie est là, d'aller voir un psychologue, même si on pense que ses problèmes sont minimes ou quoi que ce soit. C'est en fonction de quelle place ils prennent dans l'esprit, quoi. Plus que dans la vraie vie, enfin dans la réalité.
Mais le but, c'est de parler, hein, d'essayer de trouver quelqu'un.
Il y a des psys francophones, même françaises à Oslo. Il y en a au moins une ou deux, ouais.
Donc si jamais vous préférez parler dans votre langue, vous vous sentez seul. Parce que là, les périodes de fin d'année aussi, c'est compliqué pour les gens seuls, ou les gens en phase de changement de vie, séparation, etc. C'est dur, quoi.
Ouais. Moi, il y a ma psy, justement, qui m'avait dit que les résolutions de nouvelle année, là, à nouvel an, je sais pas quoi, c'était la pire période pour le faire. Il faut le faire au printemps, quand il fait beau, justement. Mais enfin, le truc du premier de l'an où tu dis « cette année, je me mets au sport », non, non, tu attends le mois d'avril pour te mettre au sport, parce que tu vas rien foutre de janvier à avril, on le sait très bien, et c'est pas grave.
C'est pour ça qu'on pense à faire ça en janvier. Hein.
Voilà, ouais. C'est ça. Mais...
Par contre, il y a le dry January, ça peut être une bonne idée.
Aussi.
De pas prendre d'alcool tout le mois de janvier. Tu connais pas ça ?
Si, carrément, j'étais en train de me faire la marque. Moi, je m'étais dit, oh, ça le fait et tout. Et en fait, j'ai essayé de remarquer la fréquence avec laquelle je bois de l'alcool. Je bois toujours en petite quantité, mais je bois souvent, en fait. Mm-hmm. Enfin, plus que ce que je croyais, plusieurs fois par semaine.
Ouais.
Parce qu'au stand-up, une bière, parce qu'au dîner, un verre de vin. Et en fait, ouais, je pense que je pourrais tenir si je m'y tenais. Enfin, si je me mettais l'objectif.
Ouais.
Mais je me suis surprise moi-même à me dire, mais en fait, tu crois que tu bois pas beaucoup, mais je bois plus que ce que je pensais. Enfin, plus souvent.
Mm-hmm.
Donc ça, je pense que c'est une bonne prise de conscience aussi.
Ouais.
Et alors toi, Roxane, pire moi, pourquoi ?
Et alors, en plus, c'est mon anniversaire en janvier. Non, mais c'est, je pense que c'est aussi... moi, depuis que je suis ici, je bois beaucoup moins parce que c'est plus cher, mais aussi parce que je traîne... Enfin, ma coloc ne boit pas et donc ça ne me donne pas envie de boire.
Ouais.
C'est aussi en fonction... Parce que, par exemple, en
France, social, oui.
Ouais, en France, moi, je bois beaucoup. Enfin, j'ai bu presque tous les jours pendant longtemps, donc voilà, bon, c'est pas grave. Mais il n'y a pas de souci avec ça, mais juste, c'est parce que j'ai plein de potes et on boit tous ensemble. Mais ici, je me rends compte que si, je peux m'en passer, mais si je suis entourée de gens qui boivent, non, c'est impossible. Ouais. Un dry January, je ne pourrais pas le faire si je suis en France. Avec ma famille, avec mes potes et tout, je ne pourrais pas.
Enfin, tu es la bienvenue à rester en Norvège.
Avec plaisir.
On t'aidera sans problème.
Brisons la glace.
Est-ce que vous saviez que c'était interdit de mourir à Svalbard?
Interdit de naître et interdit de mourir, c'est quand même mythique cette histoire.
C'est génial. Interdit de
naître. Je savais pas qu'il y a pas de naissance. Non. Les femmes qui sont sur le point d'accoucher, ils les
foutent
dans l'avion.
Ah bon, mais pourquoi?
Parce que j'en sais rien. Je crois que c'est parce que les installations médicales, j'en sais rien.
Il y a pas des accords.
Mais c'est un truc qui est vachement connu, un fun fact sur Svalbard. Tu peux pas naître et tu peux pas mourir. Et il y a un pote du stand-up qui est un peu vieux et qui dit. Je suis descendue de l'avion de Svalbard, j'ai failli trébucher, ils m'ont remis dans l'avion direct. Cette blague est marrante. C'est parce qu'ils sont trop paniqués d'avoir un mort.
Ouais. Mais pourquoi ?
Parce que, en fait, ils ont compris que les corps ne se décomposaient pas s'ils étaient enterrés au Svalbard, ça reste juste congelé. Et donc, il y a toute une période où ils ont enterré les morts de la grippe espagnole. Là. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte que le virus, il n'était pas mort.
Ah merde.
Donc
bah
il y a un gros souci
hygiène
virus voilà.
C'est une atrocité. Attends mais c'est
choqué. Il y a tellement de films à faire sur ce pays là.
Et attends mais
alors il y a une citation de Jan Christian Meyer qui est donc dans l'université de Norvège sciences et technologies. Alors je sais pas si c'est exactement ça qu'il a dit mais il s'est confié au journal The Sun et il a dit if you seem to be about to expire, every effort will be made to send you to the mainland.
Exactement, ouais. C'est ouf quand même de dire ça, mais je pense que c'est vrai en plus. Les mecs sont là. Ouais, ouais.
Mais c'est en train de crever.
C'est une sorte d'accompagnement à la mort, tu vois, une sorte d'euthanasie un peu différente.
Là, on sent que ça va pas. Jacob, il faut rentrer.
Bah ouais.
Mais non, mais j'ai juste été arrivée. Ouais, mais il y a
non, mais. Donc voilà, c'était la petite info.
C'est mignon, en fait, le fait de dire oh, tu vas bientôt mourir. Bon, c'est atroce, mais en même temps, c'est mignon. On t'aide.
Ce qui est moins mignon, c'est d'être à 8 mois de grossesse et d'être envoyé de force à l'extérieur de chez toi.
Après, tu le sais.
En même temps, est-ce que tu vas coucher à Svalbard, quoi?
Oui.
Moi, j'avais rencontré une nana, mon premier Barcel Gruppé, elle était trop marrante, elle avait grandi à Svalbard, c'était Nana qui avait mon âge, 25 ans. T'as dit quoi, pardon ?
Elle n'y est pas née, du coup.
Elle n'y est pas née, exactement. Elle a grandi là-bas entre ses 0 et ses 12 ans et elle m'a dit, mais moi, avant que j'ai 12 ans, je ne connaissais pas les fruits et les légumes frais, c'était du lyophilisé ce qu'on mangeait.
Oh ouais,
elle avait plein d'anecdotes assez incroyables. Donc, elle est de 84, comme ça, vous savez, ça va mon âge. Et en fait, elle me racontait aussi que sa maman, quand les enfants étaient partis de la maison, s'était dit « Oh, c'est quand même vraiment trop busy, Longyearbyen, je m'achète une maison à l'extérieur de la ville. » Et je me souviens qu'elle m'avait raconté avec tout le sérieux du monde « Ouais, maman était un peu stressée par quoi, que c'était vraiment genre trop une grosse ville, Longyearbyen. »
Ah ouais.
Et que sa maman a habité à 2 heures à l'extérieur de Longyearbyen. Oh, moi qui ai grandi à Paris, j'ai eu un petit vertige quand elle m'a dit ça.
Ah bah ouais, tu m'étonnes.
C'est vraiment fou.
Combien il y a d'habitants?
5 000, 6 000.
Oh putain.
J'y suis allée parce que ma belle-sœur, elle a vécu là-bas, mon beau-frère aussi. Son frère tient une auberge à Longyearbyen et c'est vraiment genre le bout du monde. C'est trop, trop beau.
2368.
Ah ouais, tu vois.
C'est,
2000,
c'est trop grand,
complètement
ça
à l'ouest.
C'est trop stressant.
C'était donc une trop grosse métropole pour la maman de ma pote. Et donc, elle s'était achetée une hutte à Majorstuen à Oslo. Ça m'avait fait trop rire cette année. Un petit pied à terre pour les week-ends.
Une hutte.
Donc, elle allait en hutte-ture à Oslo 3 fois par an.
Bon, ben, on va se quitter là-dessus. Ouais. C'était une bien belle émission. Ouais. Merci à tous les trois d'avoir participé.
Merci à toi.
Et on va se quitter avec participants français de l'Eurovision 2014, Twin Twin. Le morceau s'appelle Moustache. Si vous avez oublié, voilà, 2014, Eurovision. Ciao à tout le monde, bye bye.
Ciao, bye bye.
N'aime pas montrer mes émotions à la salle de musculation. Je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai. Mais moi, je voulais une moustache.